Vous écoutez RTL.
D'abord la curiosité, bien sûr, avec Thomas et avec Sidonie.
Oui, ça va Stéphane. Alors, vous amusez pas à piquer le polo de Jean-Paul Duss, hein, de mon Jean-Claude Duss d'ailleurs.
Permettez-moi qu'on n'a pas, pas le même gabarit en plus.
Oui, c'est ce que j'ai à dire. J'avais vu que vous avez pris du muscle, ça déborde un peu du petit polo noir. Hein.
Attendez, vous êtes lancé sur un poids chiffon. Ouais,
je parle de muscle, vous m'avez bien entendu.
Bien sûr.
Bon, c'est pour le retour du boomerang.
À jamais. Au revoir.
On va se faire une belle bio du fondateur de la dynastie des Kennedy, Joe le père de JFK, un destin comme un kaléidoscope, banquier, producteur à Hollywood, trafiquant d'alcool, ambassadeur et directeur de campagne officieux de son fils. C'est vers 14h30 sur RTL.
Allez tout de suite, les secrets de l'île de Pâques dans la curiosité.
RTL. Perdue au milieu du Pacifique, l'île de Pâques est l'une des terres les plus isolées du monde. La curiosité est un vilain défaut. Cette île volcanique d'à peine 25 km de long est devenue mythique car elle abrite un trésor.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Des colosses de pierre, appelés Moai. Ils représentent des ancêtres protecteurs et sont l'œuvre des Rapa Nui. Aujourd'hui, les scientifiques du monde entier s'interrogent sur ce peuple.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre heure de curiosité, c'est sur RTL. Tous les jours, on vous emmène en voyage, on se faufile dans les coulisses, on vous murmure des secrets. Bonjour Thomas.
Bonjour Sidonie, ça va bien?
Ça va très bien.
Lui, il est très joli, votre chemise est très belle aussi.
Oui, hein. Je suis très sobre.
Voilà, ça va, il n'y a rien à en dire. Alors tout nous passionne, vous le savez, dans cette émission, la preuve, tiens, un échantillon des thèmes à venir cette semaine. Vous allez découvrir un métier, celui de maître artificier, les secrets de l'intelligence animale, la vérité sur l'île de Palme, mais aussi d'où vient la guitare. Et
c'est l'huile de palme,
hein,
parce que l'huile de palme...
L'huile de palme.
Oui, voilà.
Si vous commencez à relever tous les savons dans l'émission, on n'est pas rendu.
Non, parce que j'en ai, moi, du gel douche aussi. Allez, on part au bout du monde maintenant sur une île de légende, l'île de Pâques. Des chercheurs américains auraient découvert comment ces fameux géants de pierre qui peuplent l'île ont été déplacés et érigés. Bonjour Nicolas Co.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Vous êtes archéologue, conservateur au musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles. Vous avez dirigé des campagnes de fouilles pendant 10 ans là-bas sur l'île de Pâques. Avant de revenir sur cette découverte, on va déjà assez rapidement déplier la carte du monde pour voir où elle se trouve, cette île mythique.
Très très loin. On est dans le Pacifique Sud, mais tout à fait à l'est du Pacifique Sud. C'est l'île sans doute la plus isolée du monde. Hein. C'est à un peu plus de 3000 km de toute autre terre, coincée entre la Polynésie française et les côtes sud-américaines.
C'est petit, c'est sauvage?
Oh, petit, ça fait 170 km². Donc c'est pas très grand, mais c'est pas négligeable non plus. C'est aujourd'hui une grande steppe, avec une petite ville dans laquelle il se trouve 7000 habitants. Une ville tout à fait moderne d'ailleurs.
Et donc ces fameux Moai, ces statues, c'est ce qu'on a tout de suite en tête comme image quand on parle de l'île de Pâques. On les rencontre où? Est-ce que c'est dans un point précis ou disséminé un petit peu partout sur l'île?
Alors c'est absolument partout sur l'île et pas que sur les côtes comme on le croit souvent, puisque ce sont des statues qui ont été installées sur des grands podiums pour servir des cultes d'ancêtres. Donc chaque communauté, chaque petit clan familial, chaque village avait son monument à statue pour dialoguer avec ses ancêtres.
Ils sont grands ces Moai, ils pèsent combien? Est-ce qu'on n'en voit que la tête? On en voit aussi les jambes?
Alors, c'est la question 4 en une, ça.
C'est beaucoup de questions en même temps.
Vous allez y arriver.
Mais c'est très variable, il y a différentes catégories. Les statues qui sont dispersées dans toute l'île, bon, elles font 3-4 mètres de haut, elles pèsent un peu moins de 10 tonnes, c'est relativement raisonnable, quoi qu'on en pense. Mais il y a des statues qui sont restées dans la carrière, qui, elles, dépassent parfois les 12 mètres de haut et peuvent atteindre jusqu'à 70 tonnes.
Celles-là
ne sont pas destinées de transporter.
C'est fait en quelle matière, si j'ose dire?
Alors, il y a un petit miracle à l'île de Pâques, il y a un volcan très ancien qui a donné des projections de cendres volcaniques qui se sont agglutinées, et c'est ce qu'on appelle du tuf. Alors, c'est une matière première assez facile à travailler, pas trop dense, pas trop lourde, mais qui permet quand même de faire ces grands monuments.
Alors, tout le mystère, évidemment, de cette île de Pâques au bout du monde, dans le Pacifique, c'est de savoir comment ces statues ont été érigées, comment elles ont été déplacées, et des chercheurs américains viennent de faire une découverte. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent?
Oui, ils ont proposé une nouvelle technique pour déplacer ces statues. Une technique avec un peu d'humour entre collègues, nous appelons la technique du frigo.
Ah oui.
Puisqu'ils essayaient de déplacer des statues debout sans les basculer. Vous savez, comme un frigo qu'on ne peut pas basculer, sinon on ne peut pas le rebrancher tout de suite. Mais c'est une technique un peu particulière. Elle fonctionne manifestement, mais elle a fonctionné avec une statue en béton armé, une reproduction en béton armé, sur un beau chemin bien plan à Hawaï. Ils ont fait la reconstitution à Hawaï. Et nous avons tous des doutes sur la faisabilité matériel.
C'est trop fragile, c'est ça que vous voulez dire, les moix, ils sont trop fragiles pour être déplacés comme ça avec des cordes.
Oh, mais il leur faut mettre des cordes à hauteur de la tête et faire des jeux de va-et-vient en basculant la statue de gauche à droite. Et je pense qu'avec du tuf, après 2-3 coups de balance, la tête se détache, très clairement.
Donc ça veut dire que pour vous, là, cette thèse, cette nouvelle thèse des Américains, elle n'est pas très scientifique, c'est ça?
Alors, dans cette réalisation, elle n'est pas très convaincante, mais il y a un point de départ beaucoup plus fondamental, c'est qu'ils ont décidé que les habitants de l'île de Pâques avaient transporté des statues déjà entièrement terminées, ce qui est assez compliqué parce que c'est fragile, il y a déjà tous les détails du nez, des mains, des pagnes qui est dessiné finement, etc. Mais c'est un point de vue qui n'est absolument pas prouvé, et il est possible que les habitants de l'île de Pâques aient simplement transporté des blocs pour terminer leur statue sur place.
Île de Pâques, le grand tabou, 10 années de fouilles reconstruites, son histoire, c'est le titre du livre, Nicolas Coe, que vous publiez aux éditions Versant Sud. On a évidemment encore 1000 questions à vous poser. Par exemple, quel message délivrent ces statues au monde entier et déjà à Lille? Les réponses tout de suite des curieux sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter, Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
On s'est au milieu du Pacifique, à mi-chemin entre en fait les côtes de l'Amérique du Sud et la Polynésie française. C'est l'endroit le plus isolé du monde. Il y a à peu près un cercle de 3000 km autour de cette île avec que l'océan.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
L'île de Pâques ou la Nouvelle-Zélande ou Hawaï sont les derniers points occupés par cette population. Et dans chaque île, chaque fois, cette population développe quelque chose qui lui est plus personnel parce qu'ils sont en isolat.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue au cœur des mystères de l'île de Pâques avec l'archéologue Nicolas Coe qu'on vient d'entendre dans la mise en onde de notre réalisateur Sébastien Duduit. Pourquoi on parle de l'île de Pâques aujourd'hui sur RTL dans la curiosité? Parce qu'il y a une série d'expositions qui démarre dans quelques jours en Occitanie à partir du 30 juin. Ça va durer jusqu'au 4 novembre à Figeac, à Rodez, à Toulouse. Voilà, elles portent des noms magnifiques ces expos. Les bois parlants, l'ombre des dieux et le nombril du monde. Le nombril du monde, si je ne me trompe, Nicolas Coe, c'est un ethnologue français qui a donné ce surnom à l'île de Pâques. Est-ce qu'il est bien porté, ce surnom? C'est un peu perdu au milieu de nulle part, c'est
Mais
ça?
En fait, c'est un peu une erreur de traduction.
Ah, très bien.
Il faut bien reconnaître. Oui, on a laissé ce titre pour cette exposition là, à Toulouse, mais on a ajouté un petit point d'interrogation, puisque l'île de Pâques, à partir de cette mauvaise traduction au 19e siècle, était considérée comme nombril du monde, puisque c'est une île isolée, ça avait l'air de bien coller, elle a l'air très singulière, etc. Mais en réalité, la vraie traduction de l'expression tépito ténois, c'est le bout du monde, le Finistère en réalité, ouais. Et c'est pas le nom de l'île, c'est le nom des trois extrémités, c'est-à-dire les trois bouts de l'île, c'est pas le nom global de l'île.
Voilà, et ça l'histoire. C'est dans la langue parlée par les habitants de l'île de Pâques, c'est ça?
Encore parlée aujourd'hui, non, c'est toujours pas perdu.
C'est du polynésien?
C'est du polynésien, ouais. Les habitants de l'île de Pâques sont totalement polynésiens, comme les habitants de Polynésie française, d'Hawaï, de Nouvelle-Zélande, ils sont tout à fait polynésiens.
Alors vous nous avez tranquillement démonté, si j'ose dire, là, cette thèse américaine, comme quoi les statues auraient été dressées déjà toutes faites, transportées avec un système de poulies.
Bon, alors qu'en pensent les Belges?
Ce qu'on veut savoir maintenant. La thèse du frigo, on balaye la thèse du frigo, mais alors ça
vous l'expliquez comment? Elle a fait le buzz sur Internet, ceci dit, elle vient d'être republiée dans une revue scientifique, mais elle date déjà d'il y a quelques années.
Bon.
Mais c'est une thèse très spectaculaire. Ouais. Évidemment, quand je dis, mais vous savez, il n'y a rien de miraculeux pour les statues, elles ont simplement transporté des blocs de tuf sur un traîneau de bois et quelques rondins.
C'est moins spectaculaire.
C'est un petit peu décevant.
C'est pas faux.
Ce qui est beaucoup plus passionnant, c'est de se rendre compte que ces gens ont effectivement construit beaucoup de monuments qui vivaient réellement avec leurs ancêtres. Ça, c'est beaucoup plus, nettement plus intéressant que des théories un peu faciles.
On est passé un peu rapidement dessus, Nicolas Coe, mais à quoi servent ces géants de pierre? À quoi servaient ces géants de pierre? Et à quelle époque ils ont été érigés? Ça, on l'a pas dit non plus.
Alors, dans toute la Polynésie, ce sont des sociétés qui ont des dieux créateurs, mais les dieux ont confié la gestion du monde aux ancêtres. Donc, chaque clan a besoin de moyens pour dialoguer avec ses ancêtres. Et c'est généralisé à toute la Polynésie. Simplement, chaque île a son truc. Certains font des très grands monuments avec des toutes petites statues, d'autres font des grandes statues en bois. L'île de Pâques avait la possibilité d'avoir du tuf, ils ont fait des grandes statues en tuf. Donc, il y a une originalité propre à chaque île, mais c'est à peu près le même système partout.
Et à quelle époque, donc?
Alors, pour l'île de Pâques, c'est peuplé assez tardivement. On a les premiers premier peuplement vers 1100-1200 de notre ère, hein, donc ce n'est pas très vieux, un peu moins d'un millénaire, et les dernières statues ont été érigées dans le courant du XVIIe siècle.
Est-ce qu'ils se ressemblent tous? On a un peu cette impression, vue de loin si j'ose dire, mais visages...
On a souvent cette impression parce qu'on montre souvent les toutes dernières statues extrêmement spectaculaires, celles qui n'ont jamais été transportées à travers l'île, qui sont très 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 grandes, celles-là ont été faites en peu de temps, sans doute en un siècle. Mais si on regarde toutes les statues de l'île, il y a beaucoup de variantes néanmoins.
Mais ce sont toujours des hommes, j'ai l'impression. Les géants,
c'est difficile
les
à dire, mais ce sont des sociétés très masculines, il faut bien reconnaître. Ouais. Les chefs de clan, qui sont ceux qui ont accès au rang d'ancêtres, qui sont des morts divinisés, ce sont évidemment des hommes.
Pourquoi ils sont coiffés d'un petit chapeau rouge pour certains?
C'est les chignons, c'est la coiffure. Ouais. Et chez les Polynésiens, la coiffure est un des sièges importants de la force qu'on porte en soi, le mana comme ils disent. Et donc le chignon, les hommes portent le chignon et ces pierres rouges représentent le chignon.
Île de Pâques, le grand tabou, 10 années de fouilles reconstruire son histoire, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Versant Sud. On va vous demander pourquoi ce mot tabou dans un court instant sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Perdue au milieu du Pacifique, entre les côtes chiliennes et Tahiti, l'île de Pâques, un bout du monde qui fascine la planète entière depuis des siècles en raison de son isolement, bien sûr, mais aussi de ses géants de pierre, les Moai. Nicolas Coe, vous êtes avec nous, on se balade sur cette île que vous connaissez par cœur, vous y avez effectué des fouilles pendant plus de 10 ans. Pourquoi on l'appelle l'île de Pâques ?
Oh, tout simplement parce que les Européens, lorsqu'ils ont découvert le Pacifique, ont eux-mêmes baptisé toutes les îles. Et le premier Européen qui est arrivé là, en 1722, un capitaine hollandais, Jacob Roggeveen, il est arrivé là le 5 avril 1722, c'était le jour de Pâques, et il a appelé ça île de Pâques.
Qu'est-ce qu'il voit quand il arrive, ce navigateur?
Il était très très déçu parce qu'il cherchait un grand continent austral. On essayait encore d'imaginer à l'époque que la Terre était dans l'équilibre, s'il y avait des masses continentales équivalentes dans l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Ça nous paraît un peu curieux aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et on pensait à des grands débouchés commerciaux, s'il y avait un grand continent austral. Malheureusement, il tombait sur une toute petite terre steppique. Il était un peu déçu.
Avec beaucoup d'habitants, des Polynésiens?
On n'a aucune idée de la quantité d'habitants à l'époque. Les premiers voyages, ces gens restaient quelques heures et repartaient. D'autant plus qu'il n'y a pas de cours d'eau visible comme ça à l'île de Pâques. Ça n'a même pas s'approvisionner en eau fraîche. Ces gens repartaient au plus vite de l'île de Pâques à l'époque.
Est-ce que ça veut dire que ça a été d'abord une île néerlandaise, puisqu'on avait la mauvaise habitude de s'approprier les terres?
Non, à l'époque, il n'y a pas eu de... Lors de ce voyage-là, il n'y a pas eu d'acte de colonisation. Ouais. Il est resté quelques heures. Par la suite, quelques années plus tard, une expédition espagnole est passée et ils ont officiellement annexé l'île de Pâques en l'appelant l'île de San Carlos, en mémoire du roi d'Espagne à l'époque. Mais une colonisation, il n'a jamais été effectuée. C'est une colonisation qui a duré 3 jours. On n'a plus jamais eu de nouvelles des Espagnols par la suite.
Et à qui appartient aujourd'hui l'île de Pâques? Alors, c'est un territoire de quelle nationalité?
L'île de Pâques a été intégrée au Chili en 1888. Et le Chili espérait surtout profiter des eaux territoriales énormes qu'ils ont annexées à cette époque-là. C'était sans compter avec l'ouverture du canal de Panama, bien entendu. Mais c'est resté chilien depuis lors.
C'est une île, vous parliez d'une steppe tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a, il y a quoi? Il y a très peu d'arbres, de... C'est quoi la végétation?
C'est une des seules îles du Pacifique qui soit sans grande jungle. Mais nous savons aujourd'hui que lorsque les Polynésiens sont arrivés vers 1100 ou 1200 de notre ère, cette île était entièrement couverte d'une jungle, comme partout ailleurs. Mais c'est une île qui a connu un destin un peu particulier pour sa végétation. Il y a d'abord les hommes, comme partout, qui ont défriché lentement la forêt pour installer leur agriculture, mais ça s'est fait aussi dans les autres îles du Pacifique. Mais surtout, le relief est le plus doux, donc on peut coloniser pour l'agriculture l'ensemble du territoire. Et c'est ajouté malheureusement à cela, lorsque la forêt est déjà un petit peu fragilisée, des phénomènes El Niño qui ont augmenté la salinité de l'eau et qui ont achevé de tuer la forêt. Donc c'est une île qui n'a pas perdu ses arbres, mais qui a perdu la forêt. Mais il restait des arbres quand même sur l'île.
Nicolas Coe, est-ce que c'est une île très touristique aujourd'hui, l'île de Pâques? On y va beaucoup pour découvrir ces géants Moai, ou alors elle est encore assez préservée?
Alors, c'est une île très très bien préservée, je vous dis tout de suite. L'entièreté de l'île, excepté le village, est une réserve naturelle. Mais ceci dit, l'économie numéro un est de très très loin le tourisme. Il y a 11 gros porteurs par semaine qui atterrissent là, mais c'est très bien géré et ça ne menace pas l'île pour le moment.
Donc il y a plein d'hôtels, c'est une ville hyper moderne, ça ressemble à quoi?
Ça fait un millier de touristes par semaine, par jour, en permanence, un millier de touristes présents sur l'île. Les hôtels sont très agréables parce que tout est aux mains des Polynésiens et ce sont des bungalows dans des jardins, donc on n'a pas cette atmosphère de tour, de grandes sociétés internationales, mais le tourisme est extrêmement développé, mais tout à fait à caractère humain. Mais c'est une île totalement accessible.
Ça veut dire que, par exemple, les moais, cette matière, le tuf qui est assez fragile, ne sont pas abîmés par les touristes ?
Alors, tous les monuments sont dans le parc national, ouais, dans l'île de Pâques, et sont extrêmement surveillés. Il y a toute une série de rangers qui sont là. Les touristes ne sont pas libres de monter sur les monuments ou de toucher toutes les statues, bien entendu. Là, ce serait un drame pour le patrimoine.
Bon, il y a d'autres mystères à découvrir, évidemment, sur cette île de Pâques qui n'a pas fini de parler, et notamment celui du Rongorogo. Vous savez ce que c'est ? Non, c'est une écriture étrange. Peut-être qu'on va la décrypter dans un instant sur RTL et dans la seconde partie de l'émission. Un grand destin entre ombre et lumière, celui de Joe Kennedy, le papa de JFK. Reste avec nous. Les curieux sur RTL, on ne s'ennuie jamais.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Avec l'archéologue Nicolas Coe, on découvre les secrets de l'île de Pâques à l'occasion de trois très belles expositions qui commencent le 30 juin et qui se terminent le 4 novembre. C'est en Occitanie. Il y aura les bois parlants au musée Champollion de Figeac, l'ombre des dieux au musée Fenaille de Rodez et le nombril du monde, l'un des surnoms de l'île de Pâques, au muséum de Toulouse. Et d'ailleurs, Nicolas Coe, vous êtes le président du comité scientifique de cette exposition à Toulouse. Il y a plein de mystères sur cette île de Pâques. On ne peut pas tous les faire, on en découvrira d'autres lors des expositions. Il y a le mystère d'une écriture assez étrange qui s'appelle le Rongorongo. À quoi ça ressemble et pourquoi elle est mystérieuse ?
Alors, on pense que c'est mystérieux puisqu'on ne sait pas le traduire. Donc c'est tout à fait intéressant. Mais le Rongorongo, Rongo c'est le message. Hein. Rongorongo c'est un message important, disons. Ce sont des plaques de bois sous lesquelles il y a des petits dessins alignés. Ce sont des très bien organisés.
Ça représente quoi ces dessins ?
Alors, c'est ça qui est un peu particulier. C'est en partie anthropomorphe, mais c'est des petits personnages un peu bizarres qui ont des appendices incompréhensibles pour nous. Il y a des petits motifs qui n'ont pas l'air de correspondre à une imitation de la nature. On ne sait pas trop ce que c'est. Alors, on a fantasmé beaucoup sur une écriture. Certains ont même rêvé d'un message secret de l'île de Pâques. Mais il faut savoir que ces plaques sont relativement récentes. On pense à partir de la dernière phase de l'histoire de l'île de Pâques, sans doute 17e, 18e siècle. Et aujourd'hui, on en arrive à comprendre, à force d'études, que tous ces petits dessins ont un sens, réellement. Mais ça ne forme pas une écriture au sens où nous l'entendons aujourd'hui.
C'est-à-dire que ce n'est pas un langage
c'est
en
un
soi,
langage
c'est ça ?
Pour transposer une anecdote, une histoire ou des choses pareilles.
C'est un message religieux.
C'est plutôt l'ordre du monde, si vous voulez, qui est indiqué là-dedans. Il y a manifestement des dieux qui sont représentés, il y a des éléments qui offrent une certaine forme. Il y a leur association qui peut donner des combinaisons sur la manière dont le monde est créé. Et tous ces signes, en fait, permettent de donner une force extrêmement importante au bois sur lequel il se trouve. Et ailleurs en Polynésie, il y a des systèmes comparables. Ce n'est pas le même objet, mais il y a toutes sortes d'objets que les conteurs utilisent pour que leurs récits oraux aient une force et une efficacité réelle. Mais ce n'est pas vraiment un système de transposition d'anecdotes. Donc c'est une écriture entre guillemets. C'est un système qui a un sens, mais ce n'est pas une écriture comme la nôtre.
Et c'est des bois parlants qu'on pourra voir pour la première fois en France, voilà, au musée Champollion de Figeac à partir du 30 juin. Et puis votre livre, Nicolas Coe, L'île de Pâques, le grand tabou, c'est aux éditions Versant Sud. Merci beaucoup.
Ah tiens, on n'a pas posé la question, pourquoi c'est un tabou ? Alors, en quelques mots.
Oui, en quelques mots, j'ai appelé ça le grand tabou, mais en quelques mots, c'est un peu compliqué. Mais à partir du XVIIe siècle, il y a des changements socio-religieux extrêmement importants à l'île de Pâques. Et ils ont mis un tabou, ils ont fermé tous leurs monuments traditionnels, y compris les monuments à statues, pour se tourner vers d'autres valeurs.
Ah ben ça, voilà. C'est un tout je m'aurais voulu d'oublier cette question.
Vous
merci
beaucoup. Vous n'auriez pas dormi cette nuit.
Ah ben, c'est clair, je tourne, je fais le lézard, pile face, c'est pas possible.
Vous écoutez RTL.